Bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, avec vous pour la prochaine heure, pour parler bande dessinée, donc pour plonger dans la sphère du 9e art. Et un plongeon qui se fera un peu, par le biais, j'aurais envie de dire, du voyage, le voyage hyper local, dans un premier temps, avec Guy Delisle, qui sera de passage pour nous parler de ses chroniques de jeunesse. Donc, après avoir développé un peu son approche sur le plan du témoignage, sur le plan du récit de voyage, avec ses Pyongyang, Shenzhen, chroniques birmanes et chroniques de Jérusalem, Guy Delisle, donc, s'en vient vers Québec et s'intéresse à son travail d'été qu'il avait tenu du côté de l'usine White Birch, donc ici à Limoilou, à Québec, donc pas très loin de chez moi d'ailleurs. Alors, ce sera un plaisir évidemment de prendre une petite demi-heure donc pour plonger avec lui dans cet album et porter un regard sur les expériences qu'il transmet par le biais des planches, par le biais des cases, par le biais du dessin. Alors ça, ce sera la première moitié de l'émission. Et en deuxième moitié, eh bien, il y aura Michel Giguère qui sera de passage. Et avec lui, on va parler de voyage. Donc, on reviendra évidemment un peu sur Guy Delisle, puisque c'est un incontournable du genre. Et on ouvrira aussi vers d'autres noms qui ont fait du carnet de voyage. Et du carnet de voyage, tout particulièrement dans les régions asiatiques et sud-américaines. Donc, en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Alors, voilà les deux segments phares de cette édition. Et ben, ça commence à l'instant. Après nous avoir amené dans certains de ses séjours et voyages, après s'être inspiré de sa vie de famille pour offrir des séquences humoristiques, après s'être intéressé à la réalité d'un otage, eh bien, Guy Delisle choisit maintenant de nous amener dans sa jeunesse, dans un premier emploi d'été à l'usine White Birch. Aujourd'hui, White Birch, en fait, devrais-je dire, à Québec, à Limoilou. Il est avec nous pour en jaser. Guy Delisle, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai l'impression que c'est un projet qui devait vous trotter en tête depuis déjà quand même un certain temps. Je me rappelle quand vous étiez passé à Québec en 2012, en résidence, entre autres pour Croquis de Québec, vous aviez été vers l'usine, vous aviez déjà croqué un petit peu l'extérieur. Donc, c'est un sujet qui est dans l'air du temps depuis déjà un bout de temps, là.
Ouais, ah oui, moi, c'est tous les projets que je fais, ils me trottent dans la tête pendant pas mal de temps. Celui sur l'otage, s'enfuir, ça m'a pris 15 ans avant de vraiment le dessiner. Celui-là, c'est peut-être un peu moins longtemps, mais en 2012, j'étais allé à l'usine pour faire des croquis. J'avais cette idée-là derrière la tête, mais à l'époque, je pensais que j'aurais pas assez de souvenirs, ma mémoire serait pas assez bonne pour aller rechercher tout ça. Et c'était peut-être un peu prématuré aussi. Je me disais, je vais attendre avant d'utiliser les souvenirs comme source, comme matériel. Je vais attendre d'avoir au moins 50 ans. Et maintenant que j'en ai 55, donc je m'autorise à aller plonger dans mes souvenirs. Je me sens assez vieux pour faire ça. Et quelque part légitime aussi, parce que tu sais, des bandes dessinées faites par des gens qui ont 20 ans, qui racontent leur jeunesse, ça fait toujours un peu bizarre, je trouve. Donc voilà, maintenant je m'autorise à faire ça, mais ça me trottait dans la tête depuis au moins cette époque-là. Ouais.
Et puis j'imagine, en fait, c'est de s'assurer aussi qu'on a un certain recul. Et dans ce cas-ci, chronique de jeunesse, oui, c'est sur l'usine, mais aussi, entre autres thématiques, c'est sur les débuts, la genèse de votre démarche qui allait vous amener éventuellement à la bande dessinée.
Il y a ça, il y a plusieurs choses. Moi, bon, évidemment, le personnage principal, c'était l'usine. À ça, ben voilà, il fallait que j'explique l'usine dans ma famille, mais ben, c'était mon père qui travaillait à l'usine. Oui. Comment, pourquoi? Donc, en filigrane, ben, il y a mon père qui apparaît au début, au milieu, puis finalement, à la fin, il était là. Il est plus présent. Le fait qu'il est décédé il y a 3-4 ans, je pense que ça a aussi permis à ce que l'album puisse se faire un peu plus facilement, je pense aussi.
Donc, on avait une série de thématiques et j'imagine un contexte aussi parce que, si je ne me trompe pas, en fait, votre enfant est rendu autour de quoi, 17 ans? Donc, ouais. Et si je me fais un peu à la tendance à les voir grandir, on se reporte toujours un peu dans l'état où on était quand on avait le même âge. Donc, on essaie de créer de voir un peu c'est quoi les points de jonction. Et j'imagine que ça vous fait un contexte additionnel aussi pour replonger dans vos années de 16-17 ans, dans vos étés de l'époque. Ouais.
Ben oui, tout naturellement, en fait, parce que je le vois aller, il y a 17 ans, je me dis, tiens, moi, à 17 ans, je faisais quoi? Ah oui, ça et ça. Donc, l'usine me revient à l'esprit. Et, Et je m'étais dit, je vais faire une bande dessinée. Au début, je pensais, il y a longtemps, je me disais, je vais faire. Enfin, je pensais pas que ça prendrait la forme d'un livre. Je pensais que ce serait juste quelques anecdotes, mais je me dis, ça serait le fun que je le fasse pour lui. Je pourrais lui dire, voilà, moi, à ton âge, je travaillais à l'usine comme vraiment un vieux papa. Et en fait, quand j'ai plongé dans mes souvenirs, je me suis rendu compte qu'il y avait assez de matière finalement. Enfin, ma mémoire était plus fiable que ce que je pensais. Donc, il y a eu assez de matière. Je me suis rendu compte quand je me suis dit, bon, allez, là, j'essaye de travailler sur ce livre-là ou je l'oublie complètement, mais c'est soit un, soit l'autre. Donc, voilà. Après, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de petites anecdotes et puis ça pourrait faire un livre. Donc, ça a pris la forme d'un livre un peu par surprise.
Et en fait, il faut dire peut-être d'emblée, j'ai l'impression que vous partez beaucoup de l'anecdotique, justement, et c'est l'accumulation d'anecdotes qui nous offre le portrait un peu global. On l'a vu dans Chronique de Jérusalem, entre autres dans Chronique birmane, donc quand vous vous racontez. Donc j'imagine que le défi, c'était de voir si, justement, comme vous le disiez, dans le fond, si on a assez d'anecdotes pour garnir, pour nourrir un livre, et si les anecdotes qu'on a racontées sont adéquates, sont bien orientées pour nous offrir le portrait global qu'elles vont construire mi bout en bout, mi côte à côte.
Ouais, moi je fonctionne comme ça, puis en fait, je ne saurais pas fonctionner autrement. C'est vraiment ma méthode de travail. Observation, là, dans ce cas-là, c'est des souvenirs, mais je les ai ramenés sous une forme d'observation avec des notes. Et puis, j'ai repris cette méthode de travail que j'ai, c'est-à-dire de me laisser aller au fil de la création de la bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai pas de plan. En fait, le plan, c'est les 3 étés, donc j'ai pas à écrire un grand plan à l'avance. Je sais que voilà, ça commence avec la première journée, etc. Donc, j'avance dans la fabrication de la bande dessinée au fur et à mesure, et ça me permet d'avoir un rythme où je me dis bon, ben là, j'ai fait beaucoup de trucs un peu plus explicatifs, un peu plus sérieux, et puis donc, ça serait le fun de passer à quelque chose d'un peu plus relax, un peu plus contemplatif peut-être. Donc, une question de rythme, ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel, je pense, que quand quelqu'un lit la bande dessinée qui tourne les pages et qui me dit j'ai pas pu arrêter, je me dis bon voilà, j'ai fait une bonne job. Après je me dis bon, mais j'ai quand même passé 2 ans pour faire cette bande dessinée là, c'est dommage qu'il la clenche au bout là, mais voilà, la satisfaction est là, et c'est le faut que le rythme soit assez bon pour qu'on ait envie de continuer le rythme. Donc c'est une succession d'anecdotes, oui, mais il faut qu'elle s'articule bien, il faut qu'on passe de l'un à l'autre, il faut que une question réponde. Donc voilà, c'est toute une ça se fait au fur et à mesure. Et quand j'essaye de faire un grand plan à l'avance, ça marche pas parce qu'il faut que je fonctionne vraiment au petit à petit. Donc des tout petits pas où je me dis, bon, hier j'ai parlé de ça, avant-hier j'ai parlé de ça, là ça serait bien que je parle de ça. Donc je refais presque le quotidien et je le redessine presque à la vitesse de ce que j'ai vécu 3 étés ou une année quand je travaille sur des plus gros livres. Donc je saurais pas faire autrement.
Et généralement, quand on faisait, par exemple, pour Chronique birmane, Chronique de Jérusalem, dans le fond, il y avait le matériel du voyage qui était là, vous preniez des notes, des photos, des trucs comme ça. Quand on tombe un peu dans les souvenirs, évidemment, l'usine, on peut la revisiter, elle existe encore. Donc, ça, la partie plus technique peut être couverte sans dépendre nécessairement des souvenirs. Mais pour le reste, si comme on n'a pas le carnet de voyage ou le livre, est-ce qu'il y a quand même une prise de notes, une organisation ou juste l'idée de mettre sur des post-it ou sur du papier, les idées qui nous viennent, comment se
Ouais.
construit un peu cette base-là, si on peut dire?
J'essaye de refaire comme si j'avais fait un voyage là-bas, en fait, parce que les souvenirs, j'en ai noté 2, il y en a un troisième qui est venu le lendemain matin, whoop, le robinet était ouvert, il y en a plein d'autres qui sont venus, donc je notais ça allait vite. Puis après, au fur et à mesure de la bande dessinée, il y en avait d'autres qui revenaient, mais ils étaient, à un moment donné, je les ai tous mis en ordre chronologique, et puis ça devait aller là, ça devait aller là, et puis pour les rythmer un peu, comme je disais tout à l'heure, je suis retourné à l'usine. Et quelqu'un me l'a fait visiter, donc j'ai pris des photos parce que ce serait impossible de refaire l'intérieur de tout ça de mémoire. Et puis ils sont assez spécifiques parce que je suis allé voir d'autres usines de pâte et papier et leurs machines ne sont pas les mêmes, c'est pas la même disposition, ce qui fait que ça change pas mal de choses. Donc j'avais des références un peu floues, mais assez précises pour pouvoir travailler dessus. J'avais pas un bon appareil photo quand je suis allé me promener là. Mais bon, malgré ça, avec la bande dessinée, on peut recomposer tout. Donc, c'est tellement flexible le dessin. Et voilà, ce qui fait que je retranspose finalement cette façon de voyager. Là, c'était voyager, mais dans un tout petit endroit bien spécifique qui est parti uniquement de souvenirs. Ouais.
Et de partir peut-être un peu pour conclure un peu sur cet aspect-là. Est-ce que c'est plus intimidant, est-ce que c'est plus impliquant de partir de soi directement, d'une expérience qui est peut-être un peu plus lointaine, parce que vous partez de vous-même aussi dans les autres ouvrages, on s'entend, mais j'imagine qu'on n'est pas dans la même temporalité, c'est pas nécessairement aussi personnel non plus quand on se pose en observateur versus quand on est nous-mêmes observés ou quand on s'observe nous-mêmes à l'intérieur d'un environnement, à l'intérieur d'un contexte.
Ouais, parce que là, souvent j'ai trop de notes. Fait quand je reviens d'un voyage, j'ai pris des notes sur le quotidien, et puis évidemment il y a plein de trucs qui sont pas intéressants, donc je garde juste ce qu'il y a d'intéressant, de drôle ou de cocasse. Puis ça fait paf un grand melting pot. Là c'était différent, c'est-à-dire que là, toutes les souvenirs qui me revenaient, évidemment le filtre du temps avait fonctionné pendant tellement longtemps, plus de 30, 35 ans, qu'il me restait que finalement les trucs qui me paraissent, qui avaient gravé mon esprit, certaines conversations que j'avais trouvées à l'époque bizarres, choquantes, très drôles aussi, donc tout ça, ça c'était là. Et en fait, quand j'ai descendu, il y avait que les seuls souvenirs qui me restaient, c'était ceux qui étaient importants, drôles, cocasses, et j'y avais pas à trier. Tout était bon finalement. Et tout ce que j'ai pu me souvenir comme ambiance, comme gens que j'avais croisés là, ben tout est dans le livre. C'est sûr que si j'avais à l'époque pris des notes en fait sur le quotidien, tout ça, là, ça aurait été une démarche assez différente. Ça aurait fait sûrement un livre différent, mais il y aurait eu aussi, comme quand je reviens d'un long voyage d'une année, plein de trucs où bon ben là ça se répète, là c'est un peu la même chose pendant bien souvent des nuits, il se passait rien de particulier ou en tout cas c'était très routinier, c'était la même chose tout le temps. Donc il y aurait eu évidemment beaucoup de matière à enlever.
Et à travers tout ça, on l'a dit d'entrée de jeu, Guy Delisle, le personnage central, ou du moins celui qui était considéré comme le personnage central des chroniques de jeunesse, c'est l'usine, c'est Stadacona, White Birch et autres noms, enfin, il a beaucoup changé de propriétaire. J'imagine que c'est un lieu, en fait, pour n'être jamais rentré moi-même à l'intérieur. J'imagine en dedans, ça doit être saisissant comme ambiance, autant qu'à l'extérieur. C'est un bâtiment de style art déco qui est absolument magnifique dans le patrimoine industriel de Québec. C'est un lieu qui est frappant de l'extérieur déjà, là.
C'est un drôle de bâtiment. Ouais. L'extérieur est vraiment déjà tout le parc industriel. Moi, j'ai pris des photos en tournant alentour, mais bon, on est limité parce qu'on peut pas aller derrière. Enfin, c'est assez compliqué. Et on le voit bien, mais quand on passe sur l'autoroute qui passe au-dessus, là, on est en. Mais bon, c'est pour prendre des photos, c'est pas facile. Donc, j'étais assez limité là-dessus sur l'extérieur. Mais c'est en faisant la bande dessinée que j'ai fait des recherches, puis que j'ai compris que c'était le style de cette usine venait, voilà, vraiment de l'art nouveau ou de l'art déco, plutôt art nouveau, je pense. Et c'est inspiré des bâtiments new-yorkais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté brique avec des espèces d'ogives au-dessus. Et ça m'a rappelé quand j'étais jeune, et ça, c'est une des pages que j'ai rajoutées vers la fin du livre, ben, ce sentiment que j'avais, qu'on a peut-être tous d'ailleurs, en regardant cette usine-là, qui est très élégant, mais qui est un truc industriel où ça pue, il fait chaud, il y a de la vapeur. Et ouais, le fait de faire cette bande dessinée-là a répondu à ce questionnement que j'avais quand j'étais jeune. Pourquoi, que fait ce joli bâtiment au milieu de fumée et puis d'odeur de soufre? Cette odeur de soufre qu'on sent moins, mais quand j'ai maintenant à l'entour de l'usine, parce que ça a changé de façon de faire la pâte à papier maintenant, vu qu'ils travaillent beaucoup sur le recyclé, mais quand je suis retourné à l'usine pour visiter, et prendre des photos. On a passé cette petite porte où on s'en va dans le vestiaire. Et après le vestiaire, voilà, on rentre dans cet énorme espace où il y a quatre grosses locomotives qui font du bruit, qui sont chauds. Et puis ça sent fort aussi. Et quand on a poussé la porte et que j'ai entendu et le bruit et j'ai ressenti l'humidité et l'odeur, je me suis dit, waouh, j'avais 17 ans instantanément. Et il y a plein de de sensations qui sont revenues, ouais. Et bon, évidemment, quand on mélange en plus l'odeur et l'image, c'est très fort. Donc, c'était une expérience vraiment intéressante, hein, de revenir dans un endroit comme ça qui était imprégné d'une odeur, d'un son et puis en plus d'une humidité. Donc, c'était comme un choc.
Et j'imagine que le défi, sachant que c'est ça un peu le choc aussi qu'on ressent quand on arrive là, mais le défi, c'est de le faire transparaître au lecteur, dans le fond, la chaleur, l'odeur, le bruit. Et j'imagine que ça doit être un défi dans, oui, de l'architecture, dans le fond, on peut la dessiner, on peut la reproduire, mais l'ambiance plus, disons, sensorielle, ça devient plus difficile à transposer dans la bande dessinée.
Ben ouais, s'il y a un truc qui est dur à faire ressentir au lecteur en bande dessinée, c'est le bruit, c'est l'odeur et puis c'est la chaleur. On a beau mettre des gouttes de sueur ou mettre un soleil qui brille dans le désert, on regarde Tintin se promener dans le désert, ok, ils ont chaud, mais on le ressent pas. Dans un film, c'est pareil. Par contre, dans un film, on peut mettre le bruit, on peut mettre des ambiances sonores, évidemment, c'est hyper important. Dans la bande dessinée, on n'a pas ça. Donc, moi, je peux pas mettre pendant toute la bande dessinée, une espèce de vrombissement en dessous qui aurait fait des lettres, c'était pas possible. Donc je le mets à certains endroits, mais je pouvais pas aller beaucoup plus loin que ça pour mon goût à moi en fait. Mais là-dessus, c'est limité la bande dessinée. Donc j'ai pas insisté, mais il faisait quand même vraiment plus chaud là-dedans. C'était beaucoup plus bruyant et puis on transpirait à grosses gouttes. Ouais. J'aurais pu en rajouter, mais bon, il y a les limites de la bande dessinée. C'est bien de savoir parce qu'on peut pas s'évertuer. Il m'est arrivé de par le passé. Et c'est là où l'expérience aide un peu à faire justement quand on voyage, il y a des odeurs en Birmanie qu'on retrouve ou en tout cas qu'on découvre. J'avais essayé de faire des pages là-dessus et en fait ça marchait pas, je les ai enlevées du livre parce que ben, de parler d'odeurs dans une bande dessinée, même dans un film, ça marche pas vraiment. En littérature on peut, ça s'est fait et c'est passionnant d'ailleurs, mais en image, en bande dessinée, l'odeur, non, ça marche pas.
Oui, donc en fait, faut trouver d'autres outils, d'autres recours, évidemment.
Connaître les limites, forcément.
Exact. Aller travailler avec le médium qu'on a et nous accompagner beaucoup aussi parce qu'il y a la machinerie, évidemment, qui est devenue présente. Mais et c'est un comparatif que vous avez pris, ça et là, mais que je trouve qui est juste et donc je vous ramène. Mais l'impression vraiment d'entrer dans un vestiaire de sport, dans un vestiaire de hockey ou autre, avec vraiment un lieu... où les gens se donnent une certaine liberté peut-être dans la parole, dans l'être, qu'ils ne se donneraient pas nécessairement ailleurs. Et autant pour vous à l'époque, et comme pour bien d'autres aujourd'hui, c'est une entrée dans une certaine culture aussi, dans un univers qui est particulier, disons-le comme ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je parle là de culture aussi parce que finalement, cette usine-là existe depuis tellement longtemps. Elle est là depuis 29. Moi, il y a des gens qui m'écrivent après la bande dessinée. Il y en a un qui a fait 41 ans là-bas. Donc, on imagine, c'est des vies entières. C'est des générations maintenant qui sont passées dans cette usine-là, qui ont vécu des transformations à l'intérieur de l'usine. En fait, moi, je trouve ça assez passionnant d'imaginer ces machines-là qui sont là depuis 29, qui ont été rafistolées, changées, améliorées pour la sécurité. Et puis ça tourne toujours non-stop depuis tellement de temps et ça continue et les gens qui ont vécu là, évidemment, ils ont leur vie dans ces endroits-là. Moi, j'arrivais là, je passais 3 étés, eux, ils étaient chez eux, évidemment, ils me regardaient à peine, enfin, c'est-à-dire que j'étais dans le décor pour eux, je faisais pas vraiment, parce que j'étais de passage, j'étais pas quelqu'un qui allait rester là. Donc moi, à 17 ans, j'étais assez timide, j'arrive là-dedans, c'était, j'aurais été impressionné dans plein milieu de travail, mais là, il se rajoutait le bruit, le côté, voilà, où t'as l'impression d'arriver chez eux. Et ils sont, donc, ce côté culturel, il y a un langage qui se développe à cause du bruit que t'apprends à force d'être là-bas, qui est assez passionnant aussi, avec la distance, comme ça, ils se parlent en signe, ils arrivent à dire des choses qui sont finalement assez complexes, un grand mot, mais en fait, qui sont quand même un peu élaborées. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Et donc, voilà, moi, j'étais de passage, donc c'est vraiment une bande dessinée aussi qui décrit quelqu'un qui est pas dans son univers et qui regarde cet univers, mais bon, comme moi j'aime observer, j'aime bien noter des petits trucs, ça me passionne et j'ai un côté curieux aussi, mais bon, j'étais quand même le petit étudiant qui lisait 100 ans de solitude sur la grue alors que ben ils restaient dans la cabane à sonoriser, à parler entre eux, comme beaucoup de jeunes comme moi. J'étais pas le seul, évidemment, j'en décris un, mais il y avait tout sur chaque machine, il y avait un jeune qui était là et qui était en travail d'été, donc c'était un peu le même genre de profil.
Et pour expliciter tout ça, il y a une séquence, entre autres, dans le livre où ben, il vous demande en quoi vous étudiez. À l'époque, vous étiez en beaux-arts au cégep. Et un peu le silence sur l'incompréhension, pourquoi on va là-dedans. Ça montre peut-être un peu l'ovni que l'étudiant que vous étiez à l'époque était
Ouais.
pour eux aussi.
Ouais, c'est ça, c'est sûr que moi je détonnais là-dedans parce que mais c'est là, moi ça m'avait bien surpris et cette réponse-là, je m'en suis souvenu longtemps en fait. Il me disait que tous les étudiants qui passaient là, ils étaient soit étudiés en droit ou soit en médecine. Et ça m'avait aussi surpris qu'eux étaient surpris de savoir que je faisais autre chose, c'est-à-dire les beaux-arts. Et ils me demandaient qu'est-ce que j'allais faire là-dedans. Et j'en avais vraiment aucune idée à l'époque. Et je disais, ben, je sais pas, moi j'aime le dessin. Si je peux me trouver quelque chose là-dedans, je serais bien content. Donc voilà, c'était deux univers. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, je regardais certaines de ces machines avec de la poudre de papier qui tombait dessus, un peu comme de la neige. Et puis il y avait ces gros rouages qui tournaient dans des fois des il y avait de la graisse qui coulait. Et je me disais, ça serait le fun de faire un espèce de court. Mais enfin, j'avais des vues très artistiques. Tu sais, je me disais, il faudrait faire un court-métrage sur ces machines qui étaient très usées avec de la peinture, des textures incroyables, vraiment. Et je me disais, waouh. Et donc, je me gardais bien de leur partager mes vues sur cette usine qui était sûrement pas les mêmes que quelqu'un de 17 ans en art plastique avait que ces gars-là qui travaillaient là toute leur vie.
Exact, puis qu'il y avait une relation qui était particulière entre eux, avec l'usine, avec le lieu, avec une routine aussi, comme vous l'avez dit. Puis c'est là qu'on retrouve peut-être un peu, et vous l'avez mentionné, la posture un peu de l'observateur qui revient un peu, où on observe l'architecture, on observe un peu la dynamique, on essaie de comprendre cet univers-là. Et finalement, on comprend aussi que pour vous, dans votre démarche, dans votre parcours, ça devenait peut-être un peu un plan B, si jamais ça ne marchait pas en animation, autant qu'un contre-exemple, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Et quand on parle de gens qui ont fait 41 ans là-dedans, ça doit pas être 41 années faciles dans le bruit, dans la chaleur, et le reste, là.
Ouais, et puis les gars, ils avaient décidé de faire des chiffres de 12 heures en fait, donc ça leur permettait d'avoir un week-end plus long, ce qui est vraiment confortable, mais travailler de 7 heures du soir à 7 heures du matin, fait tu sens passer quand même physiquement. Les gars, le matin, ils allaient prendre une bière à la taverne, ça m'épatait vraiment. Moi, je rentrais chez moi dormir. Et oui, c'est des vies assez difficiles. Par contre, c'est pas de l'usine de. Moi, je rencontre des gens qui me racontent beaucoup maintenant leur job d'été. C'est assez drôle. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fait de l'usine, mais ils ont fait, eux, par contre, de l'usine de montage, en fait, de la chaîne de montage qui est là, franchement, pas drôle. Hein? C'est-à-dire que tu fais le même geste tout le temps, toute la journée, et puis tu t'en vas, tu n'as rien appris de nouveau. Moi, il y avait quand même un métier qui était, c'était des ouvriers spécialisés, je pense qu'on peut vraiment les nommer comme ça. Il y avait quelques subtilités, il y avait quelques finesses. Moi, dans la petite partie que j'avais, après, il y avait beaucoup plus de choses à apprendre pour ceux qui montaient en grade, parce que là, il y avait des machines à contrôler. Je le décris un petit peu. Mais ça aussi, c'était passionnant de voir ce métier-là qui, eux, ils avaient quand même une certaine fierté à faire ce métier-là, je pense encore aujourd'hui, en fait, d'être papetier, comme tous ces corps de métier, j'imagine aussi comme les cheminots, les vieux cheminots qui connaissent leurs machines, leurs trains. Mais là, les gars qui sont là-dedans, ces machines-là, c'est comme des grosses locomotives, ils les connaissent par cœur, ils connaissent chaque détail. Moi, ça me fascine beaucoup. J'ai l'impression, ça me fait penser un peu à ces films de Far West où tu rentres dans un saloon et tout le monde se connaît. Et ben là, moi, j'avais 17 ans, je rentrais dans le saloon et je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était quoi la job. Donc, il y avait tout à apprendre. C'était pas facile, mais en même temps, aujourd'hui, je suis content d'avoir vu ça à 17 ans, parce qu'à 17 ans, on se dit, tiens, moi, longtemps, je me suis dit, si un jour, ça va mal, je vais aller à l'usine et au moins, je pourrais dire, je suis sixième main, j'ai fait deux, trois étés. Et longtemps, j'ai gardé ça, je vais avoir un côté très insécuritaire, parce que même après longtemps que j'avais ma job, je me dis, si m'en est, ouais, j'ai peut-être un côté collapsologue, là. Je me dis, si un jour tout s'effondre, ben, on va toujours faire du papier, alors qu'aujourd'hui, ça s'avère pas vrai, vrai, là. Parce que
À l'époque.
l'usine a diminué, hein, parce qu'ils étaient plus de 1000 personnes, ils étaient 1100 ou 1200, on m'a dit, et maintenant, ça a beaucoup diminué. Il n'y a plus que sur les quatre grosses machines, il y en a trois qui tournent et puis ils sont à 600, je pense, là-dedans.
Et Guidolil, tantôt, on parlait des machines, évidemment, qui sont impressionnantes, qui sont le fun à montrer. Et l'effet des machines aussi, je veux dire, ça donne dans Chronique de jeunesse des belles séquences. Et je pense notamment quand le papier, justement, se met à sortir de la machine et que là, il y a plein de papier qu'il faut pousser. Et le reste, je veux dire, même en termes visuels, et j'imagine que ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ça a été retenu pour la couverture, ce type de séquence-là, mais ça doit être à la fois particulier à vivre et à la fois assez plaisant à dessiner, à mettre en scène, enseveli presque comme ça sous du papier.
Ouais, c'est vraiment une texture qui c'est quasiment comme de la neige des fois. Alors on faisait ce que fait toujours. Non, je pense que ça a changé maintenant. Ils font un papier plus de qualité. Mais nous, à l'époque, c'était du papier journal. C'est très très fin. C'est pas comme du papier de bible. C'est juste un peu plus épais. Et puis quand ça pète, bon, il y en avait partout parce que ça tourne à toute vitesse ces rouleaux-là. Et les textures qu'il y avait, ça pouvait changer comme étant quelque chose qui ressemblait à des draps, à être froissé. Ou des fois, c'était vraiment comme des tout petites textures. Encore une fois, j'ai regardé ça avec beaucoup de fascination. Et ça, c'était le côté où le papier était sec. Il y avait le côté où le papier était humide, où des fois, c'était comme du papier crépon qui était chaud. C'était comme de la mousse. Ça ressemblait à des gros édredons ou des oreillers. Et je faisais ça en plein milieu de la nuit à 4 heures du matin. Je m'imaginais plonger là-dedans. Et tu sais, c'était chaud parce que la pâte était chaude. Et le papier à l'autre bout aussi, même quand il est sec, comme il vient d'être séché, il est chaud. Il y a un contact qui est assez agréable, en fait. C'est tout lisse et ces montagnes de papier. J'ai pas en revu, mais j'aimerais que quelqu'un prenne des vraies belles photos de ça avec les lumières qu'il y avait de nuit, parce c'était comme un banc de neige, mais de papier. C'était assez fantastique.
Et pour illustrer l'album, en fait, contrairement à d'autres de vos récits, on ajoute aussi du orange dans ce cas-ci qui vient complémenter le noir, blanc, gris. Pourquoi l'orange? Puis pourquoi avoir choisi justement d'intégrer peut-être un peu aussi ce soupçon de couleur-là pour Chronique de jeunesse?
Ben, à un moment donné, je pensais faire l'album en noir et blanc, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Moi, je suis assez attiré par les bichromies, donc les deux couleurs. J'aime ça quand c'est simple aussi, mais j'aime quand le dessin est simple, j'aime quand le texte est simple. J'essaie pas de faire du style quand j'écris, hein, parce que je passe la moitié de la journée le matin à écrire ma page et l'après-midi à la dessiner. Donc, il y a une partie écriture importante quand même. Et je saurais pas écrire un roman, par exemple. Mais par contre, pour expliquer ce que je dois expliquer dans une BD, j'arrive à peu près à dire ce que je veux. Quoique des fois, c'est limité quand même. Je suis plus un dessinateur qu'un écrivain. Donc, je garde ça simple. Sujet, verbe, complément, explication très très carré. Puis j'aime ça aussi que ça soit équilibré avec le dessin, donc que le dessin et le texte soient à peu près la même vitesse de lecture quelque part. Donc je voulais pas tout mettre ça en couleur, je voulais juste que ça soit assez simple. Et comme il fait chaud, l'orange c'est la couleur la plus chaude. Et puis ça me rappelait aussi le côté un peu vintage. Il y avait des vieux imprimés qui étaient en orange et noir à l'époque. Mais ça, c'est encore plus vieux que moi, je pense. Mais ça me donne, moi, quand je vois des trucs en deux couleurs, orange et noir, ça fait vieillot. Donc, comme c'était des souvenirs, je trouvais que ça marchait aussi.
Et on disait en introduction, vous l'avez mentionné, votre père travaillait à l'usine, et à la limite, en fait, de replonger dans ces souvenirs-là, c'était un peu aussi d'aller ou de retourner vers votre père aussi. L'usine, c'était un peu votre père, à un certain degré. Et c'est un père avec qui vous aviez une relation qui était, bon, assez complexe, assez lointaine d'une certaine façon. C'est un type qui semblait, de ce qu'on voit dans la BD, un homme assez particulier, assez solitaire. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, la dynamique un peu dans la relation avec votre père qui est venue d'entrée de jeu, dans le fond, quand on choisit de replonger dans ses 16-17 ans, dans cette job d'été-là, ou si c'est en cours de création qu'on s'est rendu compte que le lieu était peut-être un peu trop lié à la figure du père et donc qu'on ne pouvait pas passer à côté de ces éléments-là de la vie personnelle quand on raconte ce lieu-là?
Oui, c'est plutôt la deuxième proposition, hein. C'est-à-dire que moi je me dis bon, voilà, je parlais de l'usine, bon forcément, c'est-à-dire que narrativement c'était nécessaire et puis c'était aussi tout à fait logique que ben, l'usine c'est qui? Dans la famille c'est mon père et puis fallait que je le mette en contexte. Donc voilà, il vient de où? Pourquoi? Combien d'années il a travaillé là? C'est pour ça que moi j'y suis. Donc finalement il y avait une présentation à faire avec mon père. Je pensais m'en tenir à ça, mais après je trouvais ça intéressant de le voir, de le décrire aussi, peut-être parce qu'il était décédé quelques années avant et j'avais envie de le faire. Oui, c'est une relation qui était très très limitée. Et lui, avec l'âge, il était déjà un peu enfermé dans son monde. Avec l'âge, ça s'est pas amélioré, disons, donc il était de plus en plus enfermé. Et donc, il communiquait pas beaucoup avec l'extérieur, pas beaucoup avec ses enfants. Et donc, voilà, c'était un personnage assez solitaire. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, quand j'étais dans l'usine, j'avais déjà cette relation avec lui. On allait le voir une fois de temps en temps. Mais je me disais, ah, ben là, ça va être l'occasion de le voir dans un contexte différent. Est-ce que, voilà, est-ce que je vais voir ses chums de bureau, tout ça. Donc, mais j'ai pas eu, moi, comme j'étais la nuit, lui était la journée, on se croisait pas souvent. Une fois, je l'ai croisé, mais je l'ai raté. Puis après, bon, j'ai pu enfin aller là-dedans. Puis évidemment, quand j'ai vu son bureau, bon, ben ça, je me suis dit, il faut que tu t'en rappelle parce que tu retourneras sûrement pas là. Moi, on est quatre enfants à la maison, on est quatre. Mon frère est passé une fois, je pense, qu'il m'a dit. Mais bon, c'est tout. Et évidemment, on va pas à l'usine comme ça tous les quatre jeudis là, mais dans un contexte avec une relation un peu plus près. Je pense que j'y serais allé une fois de temps en temps. Puis j'aurais connu l'usine par lui, mais là, je l'ai pas connu par lui. Après, c'est le fun de décrire ce moment-là. En tout cas, c'était le fun. C'était nécessaire. Donc, finalement, dans la bande dessinée, à la fin, j'avais pas prévu de terminer comme ça, mais il manquait quelque chose. Et avec le directeur de collection, qui est Lewis Trondheim, donc qui s'occupe de cette collection chez Delcourt, qui s'appelle Shampoing. On en discutait, il me disait, il faudrait peut-être revenir. Et puis, déjà, j'avais envie de le faire. Et comme lui aussi le sentait, je me suis dit, bon, OK, on va faire un épilogue qui va se boucler avec ça. C'était tout à fait logique. Et puis, voilà, j'ai redessiné la fin plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve. C'est une bande dessinée où j'ai pris beaucoup plus mon temps que les autres, en fait. Je suis revenu sur des dessins, je suis revenu sur des grandes séquences. Je me suis autorisé. C'était un grand luxe aussi à me dire, je reprends cette page parce que je l'aime pas. En fait, alors qu'avant, je faisais pas ça. J'ai beaucoup plus envie de travailler dans le détail, de pinailler un peu, avec l'âge sûrement, le côté. Donc voilà, ça a pris cette forme-là.
Et puis le désir, j'imagine, de trouver le ton juste, de trouver les mots justes, parce qu'il y a des épisodes qui devaient se raconter plus facilement, d'autres qui peut-être sont un peu plus impliquants aussi ou impliquants différemment, puis qui nécessitent
Ouais.
un peu plus de, je dirais, peaufinage, réflexion, retour, ou qui
Oui,
suscitent l'incertitude.
et qui demanderait aussi une grande finesse d'écriture que je n'ai pas. Je le sais, parce qu'à un moment, je voulais un peu expliquer cette relation que j'avais avec mon père, de revenir sur un petit événement. Mais bon, je me rappelle d'avoir lu Paul Auster qui décrit son père dans L'invention de la solitude, qui est un très beau livre. Et bon, c'est une finesse d'écriture. Et j'aurais aimé pouvoir le faire de cette façon-là. Et j'ai essayé, c'est-à-dire que deux fois, je me rappelle bien d'avoir pris mes crayons en disant, allez, et revenir sur les phrases 1000 fois. Et à la fin, non, j'ai pas trouvé la forme de le faire. Peut-être que c'était pas nécessaire de le faire dans le livre, mais en tout cas, j'avais essayé de rajouter un peu plus sur ce personnage, fait sur mon père qu'on voit dans la bande dessinée. Mais ça a pas fait le final cut, on va dire.
Oui, en fait, puis il est devenu un peu une présence dans le récit, parce que comme vous le disiez, enfin, on le voit, on l'aperçoit, éventuellement une première conversation, éventuellement on en arrive à visiter le bureau. Donc, ça devient une présence qui tranquillement prend corps aussi dans la vue du lecteur, puis dans la vue d'un peu de comment nous, on perçoit à notre échelle votre passage à l'usine, si on peut dire aussi.
Oui, puis ça fait un questionnement. J'étais assez, et c'est pour ça qu'à la fin, il fallait une espèce de réponse, de conclusion, d'épilogue. Et c'est vrai que tant que c'était pas là, il manquait un petit truc, quoi.
Et à travers tout ça, dernière question, peut-être en fait, vous avez mentionné, donc c'est sorti chez Delcourt, collection Shampoing en Europe, au Québec, c'est édité du côté de Paupaud. Est-ce que dans un sujet comme ça, dans un livre comme ça, on fait une version France, une version Québec? Est-ce qu'on adapte un peu certains détours de phrases, d'accents ou autres d'un côté à l'autre de l'Atlantique, ou on y va avec deux fois un peu la même version, le même vocabulaire?
Ben là, c'est la première fois que j'avais l'occasion, en tout cas l'opportunité, comme le livre était réimprimé au Québec, les fichiers sont différents parce que chacun a ses fichiers. Et donc, on s'est dit, tiens, si on veut, on peut changer un mot ou deux. Et avec l'éditeur, on a dit, ouais. On va en profiter pour déjà y changer la couverture parce qu'elle n'est pas la même. Il a gardé une couverture qui correspond plus aux autres livres qui ont été édités chez Papa avec Shenzhen et Pyongyang. Donc c'est vrai que ça fait une belle continuité. C'est un très bon choix de sa part. Et on s'est dit on va changer quelques mots. Donc après. L'éditeur me disait il n'y aura pas grand-chose à changer à la lecture de ce qu'il avait lu des fichiers qui étaient imprimés en France. Et puis bon, à force, un mot ou deux. Et au final, quand on s'est penché sur les mots à changer, il y en avait quand même une liste d'au moins 200 mots de tournures de phrases, d'expressions qui sont pas utilisées au Québec et qu'on utilise en France. Et donc c'était assez drôle parce qu'au final il y en a eu pas mal. Il y a beaucoup de phrases, de mots, de changements. C'était par exemple parce que souvent on me demande embaucher, on dit pas beaucoup ça au Québec, on dit plus engager. Donc on a changé engager pour embaucher. Une interview. Les Français disent interview, ils disent toujours qu'on fait plein d'anglicismes, mais nous on dit une entrevue. Et après il y avait aussi se faire faucher, ouais, parce qu'en France ils vont dire une voiture faucher un piéton. Donc au Québec on n'utilise pas cette tournure de phrase-là. Donc tant qu'à y être, profitons-en, c'était le fun. On s'est dit ouais, changeons le mot. Donc on en a profité. Donc est-ce que c'est une traduction? Je sais pas. C'est un réajustement, on peut dire.
une régionalisation.
Oui, ouais, voilà.
Et avec les portes qui ont été ouvertes vers les souvenirs, avec, vous le disiez, Guy Delisle, en introduction, dans le fond, à 55 ans, on commence à se permettre de jouer un peu dans ces souvenirs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, éventuellement, on se dit, ou d'autres sujets qui trottent en tête relativement à justement des moments clés de votre vie, de vos souvenirs, de votre jeunesse, ou est-ce que ça risque d'être un peu un élément, une excursion dans ce type de récit-là à l'intérieur de votre œuvre, de vos livres?
C'est possible. En fait, ce qui est le fun avec la bande dessinée, c'est que c'est un médium qui est tellement léger à démarrer. C'est pas comme un film où il faut convaincre des producteurs que c'est une bien bonne idée, etc. Et puis, il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'une bande dessinée, moi, demain, si j'ai envie de faire de la science-fiction, ben, je commence demain. Et puis, je vais m'y mettre. J'ai pas à convaincre qui que ce soit que c'est une bonne idée. Et donc, c'est vaste. On peut aller dans plein de directions. Donc, ça fait envie. Moi, il y a d'autres directions que j'ai envie d'explorer. Depuis longtemps, j'ai envie de travailler pas sur de l'autobiographie, mais sur de la biographie. J'aimerais parler de personnages qui sont dans des recoins d'histoire qui me fascinent un peu et de travailler sur un personnage qui a déjà existé. De la fiction, je pense pas que j'ai envie d'en faire tout de suite. J'aime ça quand il y a des paramètres, quand c'est mes notes, je travaille avec mes notes et il me semble qu'il y a beaucoup de matière juste avec ça. Si tout est permis, ça me paraît un peu trop free for all. Donc, après, je pourrais faire peut-être d'autres chroniques parce que quand je travaillais là-dessus, c'était des étés, mais entre les étés, j'évoque un peu les histoires avec les étudiants, les beaux-arts et tout. Et il y avait des personnages, moi, quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts qui étaient assez colorées et je me dis ça serait le fun de revenir là-dessus. Mais bon, après, ce qui m'embête un peu, c'est que l'usine, ce qui était le fun, c'était le décor, parce que dessiner de la fumée, des cheminées, des tuyaux et puis des grues, pour n'importe quel dessinateur, c'est le fun. Mais dessiner des tables en rangée avec des casiers et puis des cadenas, c'est quand même moins funky. Donc, ça fait pas mal moins envie. Mais bon, je sais pas, peut-être que je vais m'y mettre et puis je vais regarder ce que ça donne juste au niveau des notes.
Alors, à suivre peut-être. Mais d'ici là, évidemment, on le dit, on peut se plonger donc, dans ces trois étés, surtout à la découverte de cette usine, de ce lieu emblématique de Québec et de Limoilou qu'est la White Birch. Donc le livre s'appelle Chronique de jeunesse. C'est chez Papaw au Québec, chez Delcourt en France. Guy Delisle, merci beaucoup.
Merci.
Plonge maintenant en compagnie de Michel Giguère, ici à La Vie en BD. On se replace en contexte en fin septembre 2020 pour relancer les rendez-vous après l'interruption forcée par le confinement. Eh bien, Michel, c'était dit que tout le monde avait besoin de s'aérer un peu l'esprit. Il y avait eu la bonne idée de choisir le thème carnet de voyage, voyager au temps de la pandémie. Et Michel est avec nous aujourd'hui pour parler de la suite de ce rendez-vous, carnet de voyage, la fin du périple. Et il faut avouer que le thème, après un an de confinement, est toujours aussi pertinent et bénéfique. Ben, Michel Giguère, salut!
Salut Raymond, c'est vrai, on pourrait dire en fait qu'il n'y a pas sujet plus approprié en cette période où on est cloîtré dans nos logis, nos régions, nos pays. Mais de mon bout de la lorgnette, c'est plutôt que je ne pouvais pas imaginer meilleur contexte pour présenter ce thème-là, puisque le thème, je l'avais en banque depuis des années. Or, il y a des années, ben, il y a vraiment juste les épidémiologistes qui envisageaient qu'on pouvait un jour vivre une pareille expérience. En tout cas, il reste que pour proposer le thème du voyage, on s'entend, c'est une occasion inespérée. Là.
Alors, comme quoi la pandémie peut avoir peut-être parfois des bons côtés. Michel, la première partie, l'automne dernier, avait entraîné l'auditoire en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient.
Avec une saucette au Népal aussi, puis au Tibet. Parce que je voulais finir la soirée en force avec comment je ne suis pas devenu moine du Rimouskois Jean-Sébastien Bérubé, mais je n'avais pas couvert l'Asie. Alors, il y a plein d'autres recueils, plein d'autres carnets qui vont porter sur certains pays d'Asie. J'avais également présenté des récits, appelons ça de voyages de proximité. Mettons, là, on avait vu, par exemple, que le canot camping, ça nous dépayse en nous changeant de mode de vie sans qu'on ait besoin de traverser la planète, mais c'est tout aussi des paysans. On avait également partagé le dépaysement d'Européens ou d'Asiatiques qui débarquent chez nous, en Amérique du Nord.
Et donc, mercredi prochain, tu le dis, tu nous ramènes d'abord en Asie, puis ensuite on complète le tour du monde avec les continents qui restent, donc l'Océanie, l'Amérique latine, voire même l'Antarctique.
Et oui, ça, c'est l'aventurier bédéiste Emmanuel Lepage qui nous livre le récit de son extraordinaire périple sur le continent de glace. Quand j'ai reçu Emmanuel au rendez-vous de la BD d'avril 2015, dans le cadre du Festival Québec BD, eh bien, son bébé, c'était justement cet album-là, La Lune est blanche. Et pour cette troisième bande dessinée documentaire, réalisée cette fois-là conjointement avec son frère François, qui est photographe, eh bien, il accompagnait une mission scientifique sur mer et sur glace, devrais-je dire.
Oui, puis c'est une BD, enfin, on s'en rappelle, qui intègre les photos de François directement dans les planches à travers les cases dessinées par Emmanuel.
Oui, puis c'est fou, puis c'est confondant à quel point certaines photos ont l'air peintes et certaines aquarelles ont l'air de photographies.
Et Michel, tu viens de prononcer l'expression aussi BD documentaire. Par le passé, tu as consacré quand même un certain nombre de soirées à la bande dessinée documentaire, qu'il s'agisse de biographies, d'autobiographies, de reportages, de témoignages. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, peut-être distingue les carnets de voyage des autres types de bande dessinée documentaire? Parce qu'au fond, il y a quand même une part autobiographique dans certains récits de voyage, dans beaucoup de récits de voyage, et il y a souvent aussi une dimension de témoignage qui s'ajoute à ça.
Ouais. Pour l'autobiographie, c'est plus simple. Un récit de voyage, c'est en quelque sorte, si on y pense, un épisode autobiographique caractérisé par le fait qu'on va visiter, explorer, découvrir une autre région ou un autre pays. Par rapport au témoignage ou au reportage, là, la délimitation est tantôt floue, tantôt ténue, tantôt arbitraire. Conséquemment, moi, je vais répondre pour moi, là, par rapport à la conception de mes exposés. En septembre dernier, comme ce soir, j'ai retranché du diaporama les reportages et aussi les témoignages sur telle crise humanitaire ou tel conflit. Ça ne veut pas dire qu'on va flotter toujours dans la légèreté. Vous allez le voir mercredi prochain. La plupart des bédéistes voyageurs se cantonnent pas dans les grands hôtels puis les plages privées. Ils côtoient les locaux, ils assistent eux-mêmes à des scènes désolantes où se les font raconter et ensuite nous les rapportent. En fait, ce qui distingue le reportage et le témoignage, d'une part, du récit de voyage, d'autre part, c'est surtout l'intention. Par exemple, chez un bédéiste comme Joe Sacco, il y a une démarche journalistique qui se veut rigoureuse. Chez d'autres qui vont pas aussi loin que Sacco, il y a quand même une démarche journalistique, il y a quand même une intention de sensibiliser le public, de rapporter et de témoigner, comme l'annoncent les mots « reportage » et « témoignage ». Une volonté aussi de fournir un tableau d'ensemble. Alors que dans les œuvres qui seront projetées mercredi, les auteurs témoignent par la bande, si je puis me permettre le jeu de mots, là, à travers des anecdotes, des rencontres, des moments. Leur intention première demeure de voyager pour eux-mêmes. S'ils partent, c'est par goût de l'aventure. Même chez Lepage, qui est recruté par différentes institutions à titre de, ouvrez les guillemets, le documentariste BD, mais qui raconte les préparatifs aussi bien que le voyage sur un mode plus intimiste que journalistique ou militant. Je le répète, tout ça est pas tranché au couteau. Il y a des auteurs comme Nicolas Wilde qui sont à cheval sur la limite, là, si tu veux, un pied dans chaque définition. Mais de façon générale, les bédéistes rapportent des croquis de paysages et de gens, ou encore tiennent une manière de journal de voyage en BD, racontent une série d'anecdotes qui vont traduire leur dépaysement, leurs troubles, leur étonnement, parfois leurs états d'âme, mais sans prétention de reporter ou de documentariste. Je pense même pas qu'ils prétendent témoigner. En tout cas, c'est pas leur motivation première.
Et ça nous amène, en fait, si on cherche un peu des exemples de ce que tu décris, je pense vers notre invité de la première moitié de l'émission, Guy Delisle.
Absolument. Et il ne faut pas oublier que si Guy Delisle s'est démarqué sur la scène internationale, c'est dans le genre du récit de voyage en bande dessinée. J'ai présenté le Moyen-Orient en septembre dernier, donc j'ai présenté Chronique de Jérusalem, le récit de son séjour en Israël qui lui a mérité le Fauve d'or au Festival d'Angoulême en 2012. Mais Guy jouissait déjà d'une reconnaissance considérable avec ses trois récits de voyage précédents.
Oui, et pour se reporter, ça avait commencé en 2000 avec l'apparition de Shenzhen. C'était du côté de l'association, maintenant réédité d'ailleurs au Québec chez Pow Pow.
Oui, Shenzhen, une ville chinoise située aux limites de Hong Kong, où Guy a d'abord été appelé à superviser un projet de dessin animé pour la télé. C'est fou parce que dès ce premier récit de voyage, Guy Delisle a déjà tout installé, ce qui fera sa marque distinctive qui a eu l'heure de séduire des tonnes de lectrices et de lecteurs, c'est-à-dire dessin noir et blanc dépouillé, humour pince sans rire, parfois mordant, observation curieuse, amusée, médusée aussi.
Et trois ans plus tard, là, on va vers la Corée du Nord, et récidive donc avec Pyongyang.
Et Pyongyang, ça, c'est la capitale de la Corée, mais la Corée du Nord. Si la Chine était exotique, eh bien, la Corée du Nord est quant à elle carrément surréaliste. Ensuite, sa destination suivante ne sera pas déterminée par un contrat, cette fois-là, mais par une affectation de sa femme, qui travaille pour Médecins sans frontières. Et ça, ça change bien des choses dans le type de séjour, puisque monsieur a tout son temps, d'une part, et il doit s'occuper de la marmaille, d'autre part. Ça se passe, cet album-là, dans une ville qui fait tristement l'actualité depuis quelque temps, Rangoon.
Et donc ça, c'était Chronique birmane, qui lui était sortie en 2007. Et si on complète la chronologie, tu l'as mentionné, donc 2011, Chronique de Jérusalem. Chronique de Jérusalem qui lui avait la particularité de raconter un séjour qui était beaucoup plus long, mais également, donc à l'image de Chronique birmane, en fonction d'un mandat de sa conjointe.
Voilà. Et depuis, l'évolution de cette situation familiale avec les enfants qui ont grandi l'ont amené à une vie plus sédentaire, à des sujets moins exotiques, mais tout aussi aventureux en ce qui concerne en tout cas la série « Le guide du mauvais père ». Et dans un registre plus dramatique, il a aussi raconté la captivité du Français Christophe André, otage en Tchétchénie, dans l'album « S'enfuir ». Finalement, paru chez Delcourt en Europe et chez Par rapport au Québec, ben là, vous en avez abondamment parlé de ça tantôt, il y a ces chroniques de jeunesse qui font, depuis quelques semaines à peine, le bonheur des lecteurs, des lectrices et aussi des libraires. Mais tous ces succès-là sont redevables à cet ensemble de quatre récits de voyage qui a imposé Guy Delisle au-delà de la francophonie et aussi au-delà du lectorat BD-phile. En passant, Guy avait été l'invité du rendez-vous de la BD d'avril 2010. Que le temps passe. Et l'année suivante, ben, il allait sortir Chronique de Jérusalem.
Et si on regarde vers d'autres noms, un autre grand baroudeur qui est passé par les rendez-vous de la BD en avril 2019, en fait, c'était Edmond Beaudoin.
Et dans les deux cas, Guy Delisle et Beaudoin, c'était dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, rebaptisé Québec BD. Beaudoin, il faut le dire, là, c'est un être humain hors de l'ordinaire. Il a un tempérament passionné et aussi une sensibilité poétique qui lui font approcher la pratique de son art aussi bien que le voyage, l'ailleurs et les autres, avec liberté, curiosité, témérité même parfois, et puis en même temps, avec douceur, bienveillance. Delisle a séduit des milliers de lecteurs avec son humour distancié. Bien, chez Baudouin, il n'y a pas de distance beaucoup. On est à fleur de peau et puis on est en pleine face dedans. Il donne des coups de pinceau comme d'autres donnent des coups de poing.
Et Baudouin a un certain nombre de récits de voyage à son actif aussi.
Oui, il était présent en septembre déjà et il le sera encore plus la semaine prochaine avec trois titres au programme. Carnet chinois à Pékin, Viva la vida à Ciudad Juárez au Mexique, une des villes les plus dangereuses de la planète. Et puis, Le bout de la terre en Colombie, qui est pour beaucoup plus reposant comme pays. Et les deux derniers albums ayant été réalisés à quatre mains avec Troubs. Dans ma diaposconférence, Edmond va me permettre d'aborder une deuxième question de définition, là, disons. Tantôt, on a parlé de la difficulté de cataloguer reportages, témoignages et récits de voyage. Eh bien, il faut en plus s'interroger sur le rapport entre la bande dessinée et le carnet. Mon exposé s'intitule « Carnet de voyage », oui, mais je triche un peu parce que l'art du carnet, sa pratique, sa raison d'être, diffère pas mal de la BD. À titre d'exemple, carnet chinois, on va voir tout ça plus clairement mercredi prochain parce qu'il va y avoir des projections de planches, mais carnet chinois tient davantage du carnet que de la BD. Bien entendu, il n'y a pas une seule bande dessinée. La BD peut se faire aussi éclater, même qu'elle n'est pas nécessairement narrative. Baudouin lui-même en est le meilleur exemple à travers toute son œuvre. Mais quand même, Baudouin fait partie des exceptions qui confirment la règle parce que, de manière générale, la BD est structurée, elle se conforme à des contraintes formelles assez strictes. Et en tant que lecteur, on n'aborde pas un carnet avec le même esprit qu'une BD. Le carnet, lui, se constitue de dessins croqués sur le vif et de notes éparses. C'est un espace de liberté et de spontanéité, d'improvisation. Un carnet n'a pas la prétention de livrer un récit dans une forme définitive. Son intérêt, c'est plutôt de capturer des instants, des ambiances, des visages ou des décors sous un ciel et une lumière particulière, par exemple. Je crois qu'il ne faut pas considérer ça comme une source de confusion, mais plutôt comme un enrichissant métissage. C'est-à-dire qu'il y a certains albums qui relèvent du carnet, un carnet auquel on donne a posteriori une direction, une cohésion éventuellement narrative. Et il y a d'autres albums qui sont clairement des BD, mais à l'intérieur desquels plusieurs croquis de carnet ont après coup été, si tu veux, enchâssés. Pas toujours discrètement, mais toujours harmonieusement. Et puis, c'est ce dernier type d'album que je vais principalement présenter mercredi soir qui vient.
Et tout ça, évidemment, sur grand écran dans une salle, sur les écrans d'ordinateur, sur les écrans de tablette. Donc, on adapte en fonction des écrans et des moyens de diffusion disponibles. Et ça reste toujours, Michel, on le répète à chaque mois, mais je pense que c'est important de le répéter à nouveau, ça reste toujours intéressant de voir des planches de bande dessinée, mais ça l'est encore plus quand il s'agit de récits de voyage. Et on en verra beaucoup, tu vas nous gâter, j'imagine bien, en termes de belles images et de beaux paysages.
Oui, oui, on va se payer la traite. Et puis, avec des esthétiques aussi diversifiées que les destinations. Le Vietnam, sous le trait délicat de Lolita Séchant, la bichromie pour la Chine de la jeune Maïté Verju, Tokyo avec le noir et blanc tramé de Boilet assisté de Taniguchi, l'aquarelle de Johanna pour Taïwan, le Laos au lavis avec Dumonteuil, le Kosovo en médium mixte avec Jorge González, l'équateur multicolore de Tronchet, etc., etc.
Alors, donc ça, c'est mercredi qui vient. Et Michel, enfin, on aura l'occasion également de te revoir outre mercredi de mars, donc en avril, ça va être le 7 avec Pourquoi on embarque les ficelles de la mise en scène, donc en supplémentaire. Et le 12 mai, ce sera le troisième âge dans le 9e art. Mais pour tout de suite, je le rappelle, donc on se retrouve devant nos écrans le mercredi 10 mars à compter de 19h pour Carnet de voyage, la fin du périple, donc web diffusé à partir de la page Facebook de la Maison de la littérature de Québec. Alors Michel Giguère, à très bientôt.
Oui, puis à mercredi, en attendant la prochaine émission.
Vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD et un incontournable, en fait. Les finalistes 2021 pour les prix BDIS Causa ont été rendus publics par le Truchement de Québec BD à l'aube de la présentation de son 34e festival. Cette année, on se retrouve avec 22 albums et leurs auteurs-autrices nommés dans l'une ou l'autre des 6 catégories où la sélection est effectuée par un jury formé de libraires, de bibliothécaires, de chroniqueurs spécialisés en bande dessinée. Aux distinctions qu'on va lister dans quelques instants, mais s'ajouteront aussi lors de la cérémonie qui aura lieu en avril prochain. Donc, le prix Jacques Urtubise, qui est destiné à la nouvelle création, accompagné d'une bourse offerte par la librairie Pantoute, de même que le prix Albert Chartier, qui est attribué chaque année en hommage à un individu ou un organisme qui a marqué le monde de la bande dessinée québécoise. Et avant de se lancer dans les finalistes, petite mention pour 2021, le Grand Prix de la Ville de Québec, qui souligne le meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs ou autrices canadiens, sera accompagné d'une bourse de 1 000 $ qui est remise cette fois par Brouillard Communication. Et justement, les finalistes pour ce Grand Prix de la Ville de Québec, donc c'est le prix qui est offert au meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs-autrices canadiens. Alors, les finalistes sont Casa Rodeo de Tom et Les Enquêtes de Scooby-Doo de Caton, donc tous deux publiés chez Pow Pow. Il y a également Temps libre de Mélanie Leclerc, publié chez Mécanique Générale. Traverser l'autoroute de Julie Rochelot et Sophie Bienvenue chez La Pastèque, ainsi que Vous avez détruit la beauté du monde, le suicide scénarisé au Québec depuis 1763 d'Isabelle Perrault, André Sellard, Patrice Corriveau et Christian Kennel, ça c'est chez Mouelle Graphique. Autre catégorie, le prix Réal Filion, qui est l'auteur ou l'autrice canadien, scénariste ou dessinateur qui s'est le plus illustré avec son premier album francophone professionnel. Alors ça, 3 finalistes, Audrey Beaulé, pour La Vin chez Mécanique Générale, Mireille Saint-Pierre pour La Brume chez Nouvelle Adresse et Sophie Bienvenue pour Traverser l'autoroute chez La Pastèque. Le prix Yvette Lapointe, lui, meilleur album jeunesse de langue française publié par des auteurs canadiens, eh bien, il y a 5 finalistes de ce côté. Jimmy Tornado, le tome 3 aux portes d'Agartha de Frédéric Antoine et Jean-François Vachon, c'est chez Presse Aventure. Il y a l'histoire du cinéma en bande dessinée, le premier tome, l'image en mouvement, c'est de Gary et Philippe Lemieux chez Michel Quintin. Également chez Quintin, le tome 2 de La Rose du ciel de J.P. Perrault. Vous avez aussi Mimose et Sam, le tome 3, Mission Hibernation de Caton chez Comme des Géants, et le tome 1 de Pose Philo, Les Oiseaux Philo de Karine Gauthaud et Mathieu Lampron chez Bayard. Il y a également le prix Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger par des auteurs canadiens, dessinateurs ou scénaristes. 3 finalistes, le tome 2 d'Extase, Les montagnes russes de Jean-Louis Tripp chez Casterman, La bombe de Denis Rodier, Laurent-Frédéric Bolly et Alcante, Didier Alcante chez Glénat. Et Le Convoyeur, tome 1, Nymph, de Tristan Rouleau et Dimitri Armand au Lombard. Il y a également les 2 prix Coup de cœur qui viennent clore un peu cet ensemble. Alors, le prix Maurice Petit-Didier, qui est coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger par un auteur non canadien. Alors, 3 finalistes, Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff chez Casterman, Carbone et Silicium de Mathieu Bablet chez Ankama et L'homme qui tua Chris Kyle de Bruno et Fabien Nury chez Dargaud. Et le prix Roberto Wilson, lui, coup de cœur du jury pour un album publié en français issu d'une traduction. Les finalistes, c'est Bix de Scott Chandler à La Pastèque, Kent State Catmore dans L'Oyo de Derf Bagderf chez Ça et Là, et L'Accident de chasse de David L. Carson et Landis Blair chez Sonatine. Je vous rappelle que les BDIS Causa portent sur des albums qui ont été publiés dans l'année 2020, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre dernier. Alors voilà donc pour cette liste, une belle liste à prendre à tout le moins à saveur de suggestions de lecture. Je pense que c'est aussi l'objectif de ce côté. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les finalistes, eh bien, vous pouvez les retrouver au lavieenbd.com ou sur québecbd.com. Et bien voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous retrouver.